Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tounda, Lucille Como, Boris Pinot et Grégoire Di Fior et prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Grégoire Le Ménager, Florent Georgesco, Jean-Christophe Briançon. À notre sommaire, un voyage sentimental, Laurence Stern chez Tristram. Encore heureux, d'Yves Pagès à l'Olivier et Requin de Will Self, également aux éditions de l'Olivier. Boris Pinot est de retour et face à lui un écran. Et dans cet écran, des fils, fil Twitter. Facebook, oui Facebook. Il faut surveiller Facebook aussi, Boris Pinot, des fois que nos auditrices et auditeurs auraient des choses à nous dire par ce canal concernant notre sommaire. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner à la fin de cette émission, des invitations pour le spectacle La Vase, mise en scène Marguerite Borda, Pierre Meunier, des places à gagner pour lundi 8 janvier, 20h30 au Théâtre des Abbesses à Paris. Lundi 8 janvier, ça n'existe pas, il faudrait savoir si c'est samedi. C'est lundi 8 janvier ? Ah si, c'est le lundi 8 janvier. Bon, j'ai plus mon calendrier en tête. Nous ouvrons cette émission avec un éditeur dont nous avions parlé il y a moins d'un mois, Paul Otchakowski-Laurence. On en parlait à propos de son film Éditeur, qui parle de sa vocation, de l'exercice de son métier. J'avais exprimé ici mes réserves sur la forme, nombreuses, en précisant que je connaissais Paul Otchakowski-Laurence depuis mon enfance. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il a été l'éditeur de mon père de 1975 à la mort de celui-ci en 2001. C'est un peu la famille, on va dire ça comme ça. On a appris hier soir la mort de Paul Otchakowski-Laurence, victime d'un accident de la route en vacances. Une pensée d'abord tout de suite pour sa compagne, Emmeline Landon, qui était blessée dans l'accident qui a été fatal à Paul Otchakowski-Laurence. On lui souhaite beaucoup de courage et un tour de table quand même, évidemment, pour commencer cette dispute et vous interroger sur votre rapport à cet éditeur, à ses livres. Peut-être commencer par le Benjamin de l'Assemblée, Jean-Christophe Briançon. POL pour vous.
Ah, pour moi, c'est beaucoup de choses, même si malgré tout, malheureusement, je l'ai pas connu comme vous. Je l'ai croisé quelques fois, et pour moi, sur le plan littéraire, c'est beaucoup de choses parce qu'il était, comme une fausse note dans cette musique du monde qui voudrait que, en quelque sorte, hier était mieux qu'aujourd'hui et l'art ne devrait être qu'un marché. Il était au-delà de ça, il était au-delà de tout ça. Il nous a montré avec des jeunes auteurs qui, moi, m'ont bouleversé, Mathieu Berman, entre autres, ou Lise Charles, ou Nina Yargekov. Des jeunes auteurs, avec eux, il nous a montré qu'on pouvait encore faire de la littérature aujourd'hui, faire un art magnifique. Et voilà, sans considérer que c'était un marché, sans considérer qu'on devait faire de l'argent avec. Moi, ça me touche beaucoup.
Grégoire Le Ménager.
Oui, moi, je l'ai jamais vraiment rencontré. Je lui ai serré la main une ou deux fois. Je me souviens de l'avoir vu danser un soir à 1h du matin à Manosque, où je m'étais rendu sous prétexte de faire une enquête sur les rapports entre les écrivains et l'alcool avec un camarade. Et il m'avait semblé extrêmement sympathique.
C'est un livre ou une encyclopédie qu'il faut faire, Grégoire?
Ah, il y avait de la matière. Surtout à l'occasion du festival de Manosque, c'était un bon endroit pour mener cette enquête. Mais non, il m'était apparu comme quelqu'un de très sympathique. Et puis j'ai toujours eu beaucoup de respect pour son travail d'éditeur. Je n'ai pas aimé tous les livres qu'il a publiés, en tout cas parmi ceux que j'ai lus.
Le contraire serait étonnant quand même, parce que c'est très large comme palette.
C'était très éclectique et c'est ça qui est assez fort de sa part, je trouve, c'est qu'il avait une façon de chercher des auteurs singuliers et de respecter leur singularité. Il le disait, quand il m'arrive de travailler sur un manuscrit, contrairement à la réputation de laxisme qu'on me prête, mais quand il y a des imperfections et que pour moi elles font partie de l'œuvre, j'ai aucune raison de reformater le livre en fonction de mon goût. Et ça donne des œuvres singulières. Et moi, je suis très sensible au soutien qu'il apporte à des auteurs qui vendent peu, qui pour certains d'entre eux mériteraient une notoriété beaucoup plus considérable. Je sais que la façon dont il a soutenu Jean Rollin pendant des années, qui à mes yeux quand même un des plus grands écrivains français vivant et très, enfin, cette manière qu'il a eu toujours de le soutenir est vraiment exemplaire de ce que doit être le travail d'un éditeur. Oui, absolument.
Florent Georgescu.
J'aurais tellement de choses à dire. Je dois dire que je suis assez bouleversé par cette nouvelle. J'ai pas mal de souvenirs. Je me souviens de tiens, vous parliez de danser, Grégoire.
C'est l'image de lui que je tiens à garder.
Je crois qu'il aimait beaucoup danser.
Ah, oui.
Et j'ai des souvenirs aussi de le voir danser. Je me souviens dans le port de Dunkerque. Bref, c'est des souvenirs de pas d'enfance pour moi, Roger. Pardon, je vous ai appelé Roger, mais de jeunesse. Quand j'étais éditeur et dans mes débuts d'éditeur, il avait été très bienveillant et aimable avec moi. Ça avait été très important pour moi. Et je dois dire que j'ai été par ailleurs justement l'éditeur d'Emeline Landon, donc je pense vraiment particulièrement à Emeline, qui est aussi un écrivain d'ailleurs. Donc, je le rappelle, j'avais publié justement son premier roman. Bref, par ailleurs, l'importance de Paul est évidente. Jean-Christophe avait raison de dire tout n'était pas mieux avant, mais enfin aujourd'hui on se demande un tout petit peu, parce que c'est quand même la dernière grande figure d'éditeur. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, on pourrait parler à l'infini de son catalogue, il y a mille choses. Il y a les vieux auteurs aussi. Justement, vous parliez, Grégoire, de ses fidélités qui étaient extraordinaires. C'était une des dernières maisons où il y avait des fidélités d'une telle durée, d'une telle importance.
René Belletto sort un livre.
Oui, voilà, René Belletto sort un livre.
Il est là depuis 40 ans.
C'est très impressionnant.
Avec Paulo Tchaïkovski-Laurence.
Exactement. Moi, je me souviens de... Je ne sais pas, sa fidélité à Dumitru Tsepeneag, qui est un immense écrivain roumain, malheureusement pas reconnu comme aussi immense qu'il l'est. Il a publié toute son œuvre en français ou d'ailleurs traduite, puisqu'il fait les deux, avec une fidélité exemplaire. Et ces liens-là, l'impression, et je vois, nous voyons tous aujourd'hui les auteurs de cette maison très profondément bouleversés. Enfin, c'est une relation avec un éditeur qui, pour le coup, cesse peut-être d'exister aujourd'hui. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs, si même le métier d'éditeur se conçoit comme ça aujourd'hui, si ça va de soi pour tout le monde, qu'on cherche à développer une œuvre, qu'on cherche à accompagner un écrivain jusqu'au bout, partout, en effet, y compris en assumant ses faiblesses, dans un livre ou bien dans une œuvre, c'est-à-dire même, bon, on va publier un livre qui est moins bon, mais on suit, on tient. Je ne sais pas, sincèrement, s'il y a beaucoup de... si ça existera encore bientôt, si à partir d'aujourd'hui, ça ne cesse pas d'exister. Et puis, peut-être un dernier mot, un rapport, il incarnait aussi un rapport très intime, très personnel à ce métier. Justement, nous en avons parlé ici il y a très peu de temps par rapport à son film. J'avais dit d'ailleurs, moi aussi je pouvais avoir quelques réserves formelles, mais à quel point c'était important que quelqu'un parle de lui en parlant de ce métier-là d'éditeur, qui peut devenir peu à peu un métier à peu près comme les autres. Il montrait à quel point il y a, à quel point on met de soi quand on fait ce métier, à quel point ça peut être une histoire, une aventure personnelle. C'est pas tellement comme ça qu'on entend parler du métier aujourd'hui. Et ça aussi, ça nous manquera. À partir d'aujourd'hui, voilà aussi quelque chose qui nous manquera dans le métier.
Bon, moi je dis quelques noms simplement. Georges Perec, quand même, on ne l'a pas cité, donc faisons-le. Frédéric Boyer, Olivier Cadio, Marguerite Duras, Emmanuel Carrère, Elisabeth Filliol, Christian Préjean, belle fidélité aussi, Nathalie Quintane, Nathalie Léger, Leslie Kaplan, Mathieu Lindon, Bernard Noël, Christine Montalbetti, Jean Rollin, Harry Matthews, Édouard Levé, Pierre Alféry, Emmanuel Ocar, Charles Penquin, Denis Cooper, Serge Danet, Claude Royer-Journoux, Gisèle Vienne. La liste est encore longue. Voilà. Oui. C'est simple nom. Pour saluer la mémoire de Paul Tchaïkovski-Laurence. On verra ce qui adviendra de cette maison, parce que c'est compliqué aussi quand elle est à ce point incarnée par un homme, seul, enfin...
Oui,
c'est sûr qu'il y a une équipe chez
Bowell. Comme la clé de voûte d'auteurs très éclectiques, parce que les noms que vous avez cités,
a priori, ont des pratiques
de la littérature extrêmement différentes.
Enfin, alors, j'ai bien lu ce matin ou cet après-midi que, avec Antoine Gallimard, il s'était entendu que la maison survivre après lui.
C'est ce qu'il avait dit dans l'entretien qu'il avait donné à Raphaël Léris.
Ah, voilà, c'était dans Le Monde.
Oui, à l'occasion de son film, donc on l'avait publié ça il y a un petit mois, oui.
Ouais.
Mais il avait ajouté, je ne vous dirai pas.
Ouais.
Voilà. Donc, nous ne savons pas.
Nous verrons. Allez, on va ouvrir le sommaire initialement prévu de cette dispute alors avec un écrivain, Laurent Stern, que Paul Tchaïkovski-Laurence aurait certainement publié au XVIIIe siècle. Quand au milieu de celui-ci, cet auteur a on peut dire, révolutionné l'art romanesque en deux livres, La vie et les opinions de Tristram Shandy. Puis Un voyage sentimental, il a proposé une nouvelle traduction du premier, Guy Jouvet, il réitère, alors on va voir si c'est un exploit, selon les avis qu'on va partager autour de cette table, avec le second, Stern prévenait, il faudrait savoir à la fin si c'est à nous autres écrivains de suivre les règles ou aux règles de nous suivre. Lui, il a fait son choix. Florent Georgesco, ben oui, c'est à vous, ça tombe sur vous, Laurent Stern.
Bien sûr,
c'est Florent qui va commencer.
Sur le nez.
Ça peut faire mal.
Oui, mais il y a plus lourd. Écoutez, c'est toujours un ravissement de lire Laurent Stern, mais autant attaquer bien en tête, je ne fais pas partie des gens qui sont totalement convaincus par la traduction de Guy Jouvet. Et j'ai quand même... Enfin, ce livre est évidemment une merveille.
Alors,
on a envie de se laisser porter en permanence par ces bifurcations permanentes, pardon pour les clichés qu'on parle de Laurent Stern.
C'est censé être un voyage,
un voyage
en France et en Italie.
C'est un livre merveilleux pour nous autres Français, parce que nous y sommes la crème de l'univers, la civilisation même. Donc c'est un Anglais qui débarque à Paris sur un coup de tête, enfin qui débarque à Douvres, pour être précis, mais il se retrouve à traverser en partie la France, et c'est un livre qui va d'accident en accident, en quelque sorte de rencontre hasardeuse, c'est-à-dire qu'il prend un personnage et il l'envoie se promener, littéralement, et il en fait en fait le ballot des événements, qui est transporté comme ça, comme par le vent. Ce qui est, comme toujours chez Stern, d'une drôlerie, d'une sorte de joie profonde, de gaieté inouïe, de grande santé, comme dirait Nietzsche. On est chez quelqu'un qui a un goût et surtout une sorte de savoir-faire de la vie qui est inouï. Tout peut être plaisir, tout peut être amusement. Et donc voilà, on est porté en permanence de plaisir en plaisir. Sauf que moi, je le vois dans cette traduction-là, souvent, pas toujours, je ne veux pas accabler, derrière une sorte de petit voile. Je ne trouve pas qu'il y ait dans cette traduction le rythme, le tempo de Stern. Je trouve qu'il y a peut-être une complication de la phrase. J'ai un peu regardé avant de venir, quelques pages seulement du texte anglais. Moi, j'ai vu des phrases beaucoup moins contournées que dans la phrase de Jouvet.
Parce que c'est vrai qu'elle est pleine de circonvolutions.
Oui,
on peut pas dire que la concision caractérise certes l'écriture de Stern, mais là, vous avez l'impression que ça en rajoute encore.
Il a notamment un goût de la circonvolution qui correspond bien entendu à quelque chose chez Stern, mais chez Stern, ça tient plutôt à la manière de découper la phrase, de l'interrompre, l'usage du tiré, l'usage encore une fois, de la bifurcation, cette fois dans la phrase, mais la construction ne me paraît pas si compliquée. Et il y a notamment chez Jouvet un goût du mot rare, qui en revanche, pour ce que j'ai pu comparer, n'est pas chez Stern. Quand on a dès la première page le verbe charmant, d'ailleurs résonailler, dire ratiociner en quelque sorte, on a c'est le mot anglais et argumente, enfin c'est on a un mot tout à fait simple, et il y a comme ça une manière de compliquer qui en plus va pour moi avec une oreille un peu faible, des phrases parfois un peu lourdes. Il y a un passage que j'ai trouvé qui est absolument merveilleux chez Stern, qui est mais qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la grandeur dans ce décor de carton-pâte de la vie, un âne mort à ce moment-là est sur le chemin, je résume. Et du coup, le cheval cabre et une querelle s'éleva entre le servant de notre narrateur. Et le pauvre gars fut proprement expulsé de ses bottes dès la première ruade. Bon, très bien pour cette fin. Mais par exemple, dans ce décor de carton de pâte de la vie, pour moi, c'est pas ça la musique de Stern. Ce n'est qu'un exemple, mais on peut quand même. C'est un auteur qui va droit au but.
Il va avec beaucoup de détours.
Il va droit au but. Je sais que c'est un paradoxe, mais il va droit au but dans chaque segment. Les segments sont montés comme si on les avait jetés sur la table au hasard. D'accord. Mais chacun d'eux glisse et lisse en quelque sorte et va là où il doit aller avec allégresse. Je ne trouve pas que cette langue-là soit allègre.
Mais alors pour être bien sûr de vous entendre, Florent, enfin, vous entend bien hein, dans cette émission généralement.
Vous avez un casque.
Vous aviez une traduction française vraiment précise de lire celle-ci.
Non, je ne crois pas que les. Je suis d'accord avec lui. Je le crois surtout sur parole pour dire que les traductions précédentes ne sont pas les meilleures. Je suis en train de parler d'une traduction que j'attends, j'espère.
Alors, Grégoire Leménage, je ne sais pas si vous êtes sternien ou pas, jouvétien ou pas, fin du suspense.
Bah, sternien, oui, on est obligé de l'être, je crois.
On est obligé.
Mais si,
il va y avoir une nouvelle loi Macron, c'est ça que vous voulez dire.
Mais quand on aime un peu la littérature, on est obligé d'apprécier d'abord son humour cette liberté de narratif qui est dingue, enfin qui est vraiment incroyable. Alors après sur la traduction, je me suis pas tellement posé la question et je suis pas allé vérifier, je suis pas sûr d'être capable de vérifier, d'apprécier la qualité de la traduction par rapport à l'original. Et par ailleurs non, ça m'a pas gêné, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une langue qui est un peu précieuse, qui est très contournée, qui est avec des mots rares par moment, avec des phrases un peu compliquées, mais tout ça m'a pas tellement gêné parce que le type qui parle c'est un bavard quoi, enfin vraiment c'est quelqu'un qui aime bien parler et qui se laisse entraîner par les phrases qu'il prononce, et une phrase en appelle une autre et une autre et une autre, et il se perd en digression et du coup quand il nous sort de son chapeau un élément important qu'il avait oublié de nous signaler comme à la page 114,
allons-y.
Ça crée un effet, c'est-à-dire que là, ça fait quand même 100 pages qu'il se balade en France et qu'il rencontre des comtesses et qu'il drague des filles
il n'aime pas que les comtesses.
Non. Et oui, il y a quand même un fond de libertinage aussi qui est d'époque et qui est délicieusement manié, enfin vraiment avec plein d'allusions très drôles. Et bref, et page 114, et il se trouve que quand je rentrais à mon hôtel, la fleur m'avertit que le lieutenant de police s'était enquis de ma personne, que le cornule patafiole, fis-je. Je sais pourquoi il me recherche. Et il est temps que le lecteur le sache aussi, car dans la suite des événements que j'ai rapportés, selon l'ordre où ils sont survenus, j'ai omis de signaler celui qui expliquait que je fusse recherché. Il n'a jamais été question d'un officier de police qui serait à sa recherche. J'avais quitté Londres avec tant de précipitation que je n'avais pas songé un seul instant que nous étions en guerre avec la France. Donc ça fait 100 pages que cet Anglais se balade en France comme s'il était chez lui. Et d'un seul coup, enfin voilà, il y a tout le temps des choses comme ça. Il y a tout le temps des effets de surprise comme ça. Et là, il y a une liberté qui est formidable. Et la traduction, elle rend bien compte de ça, de cette espèce de rapport très approximatif qu'il peut y avoir au réel. Quand il croise quelqu'un dans la rue, il nous fait un portrait du personnage pour nous dire que ce personnage avait environ 52 ans, ou environ 48 ans. Et là, je trouve que la traduction est assez fine.
Enfin, je résiste pas sur le moine de Calais. Le moine a en jugé par la dégradation et l'élargissement de sa tonsure, car il ne lui restait plus que quelques cheveux épars sur les tempes, pouvait avoir 70 ans. Cher à Stern, mais à s'en remettre à l'expression de ses yeux, à voir cette espèce de flamme qui brillait encore et que semblait avoir adouci l'habitude de la courtoisie plutôt que le nombre des années, on se disait qu'il n'en avait probablement pas plus de 60. La vérité se situait peut-être entre les deux. Il devait donc avoir 65. L'aspect général de son visage, en dépit des rides profondes que quelque chose, je ne sais quoi, avait dû creuser prématurément, plaidait en faveur de ce calcul. Voilà, ça prend quand même 12 lignes pour nous dire que 65 ans, en effet, à vue de nez. Jean-Christophe Brianchon, sternez-vous.
Complètement. Et je suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout, à vrai dire, avec Florent.
Oula.
Puisque justement, je vous laisse, hein. Alors après, c'est Enfin, justement, moi, je trouve que c'est un livre de traducteur, quoi. Et
bah, c'est, vous, alors, dites là, peut, vous êtes d'accord, donc. Bah,
oui. On est d'accord, mais
on l'évalue différemment.
Mais voilà, on l'évalue différemment, et moi, je trouve que ça participe pleinement à nous faire comprendre et à nous faire plus qu'entrevoir ce que Stern fait avec, enfin, fait de la langue, et en l'occurrence traduit en langue française, fait justement de cette langue française, bien qu'il écrive lui en anglais. Et je trouve que ça participe exactement comme cette, comme le dit Jouvet dans la préface, qui est assez intéressante, ou en tout cas assez éclairante quant à
sa démarche. Sur ses partis pris, en tout cas, oui, c'est
voilà,
très clair.
Sur ses partis pris, c'est très clair. Et cette traduction participe réellement à développer ce que Jouvet appelle la poétique du monstre dans la langue de Stern, puisque ça nous entraîne dans une langue par effectivement pleine de circonvolutions qui nous amène à nous donner la preuve exacte de ce français dont le narrateur dit à un instant qu'il dit plus qu'il ne fait. Et c'est exactement ça, la langue qui est traduite par Jouvet, c'est une langue qui dit plus qu'elle ne fait et qui dit beaucoup, beaucoup, et qui nous fait du coup rire et parfois comprendre la cruauté et la médiocrité finalement du monde que le narrateur essaye de nous faire entrevoir. Et de ce fait-là, je trouve que c'est quand même assez habile d'utiliser la langue pour jusqu'à nous faire parvenir à voir la médiocrité des gens qui l'utilisent. C'est quand même assez fort et en l'occurrence assez bien traduit, même si effectivement du coup le traducteur est peut-être en surimpression par rapport à l'auteur, mais finalement c'est pas si inintéressant que ça.
Florent Georgesco.
Oui, mais vous définissez très très bien les choses. C'est exactement ce que je lui reproche. c'est-à-dire que Stern dise et ne fasse pas. C'est merveilleux parce que c'est justement c'est un auteur de la parole de qui reste au fond sur la surface du langage. C'est une chose merveilleuse. Mais on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse, c'est-à-dire le traducteur. On n'a pas besoin de ce métadiscours permanent. Moi, j'ai l'impression, Guy Jouvet, je crois, est philosophe, j'ai l'impression d'assister à un cours. J'ai pas envie du tout d'assister à un cours quand je lis Stern. J'ai envie de lire Stern. Et après, si on veut me donner un cours, qu'on me le donne. Mais ailleurs. Il y a un vrai problème de fond sur la nature de la traduction à travers ça. Est-ce que vraiment on a besoin de tout commentariser en quelque sorte? Est-ce qu'on a besoin qu'un monsieur nous restitue Stern et en même temps son commentaire de Stern? Moi, je n'en ai pas besoin. Qu'il fasse des notes, qu'il fasse son appareil critique, c'est très bien. Moi, quand j'entends Jouvet parler, j'ai l'impression qu'il parle de son appareil critique.
Tristram nous promet d'ailleurs des livres à venir avec les études sterniennes de Jouvet.
Pour moi, Stern est tout sauf un auteur abstrait et tout sauf un auteur qui a des choses à nous dire. Il a à nous dire ah tiens, au fait, j'ai oublié de vous dire. Voilà ce qu'il a à nous dire. Il n'a pas une leçon à nous donner sur la langue. Et la monstruosité, par exemple, ce concept de monstruosité. Non, mais qu'on puisse faire du commentaire, et on le fait depuis un siècle au moins, sur ce qu'il fait à la langue et sur ce que signifie l'œuvre de Stern par rapport à notre relation à la langue, c'est merveilleux. Je dis juste que c'est pas ce qu'il fait lui. Donc confondre le commentaire et le texte, je crois que c'est comme si on arrivait à une sorte de dictature de la pensée sur la forme et l'art qui moi m'angoisse. Voilà.
Dictature, le mot est lâché.
Le mot est lâché. Oui,
le mot est lâché.
Pardon, il est. Mais alors, si, une dictature, écoutez.
Allez,
mais je parle de dictature intellectuelle, donc pas d'une chose très grave. Mais tout de même, dictature, c'est-à-dire empêchement de la liberté de ce texte.
Alors, liberté
et de la
ce
mienne,
texte.
Lecteur.
Immense, elle résiste à Jouvet, si on est
on
du
est
côté
d'accord.
De Florent Georgesco. Et texte supplémentaire, il faut quand même le dire, dans ce volume, journal à Elisa, alors là au statut encore plus mystérieux, oui. Parce que texte inachevé, que Stern a sans doute écrit, enfin on le sait quand même, pendant la rédaction de ce voyage sentimental, qui se présente donc comme quelque chose de plus, on va dire, épistolaire, même si c'est marqué journal à Elisa, il s'agit quand même d'écrire à quelqu'un, en l'occurrence quelqu'un qu'on aime, et de quelle façon, quel amour dans ces pages, enfin, une description absolument splendide, avec, là, c'est vraiment un document, et un peu plus que ça quand même, parce que de la littérature, il y en a plein les pages, et plein les lignes, mais les tirets sont très très nombreux, et il y a aussi des choses qui sont entre parenthèses, qui sont parfois des repentirs, ou des hésitations de Stern lui-même, donc là on est vraiment sur un document presque brut, mais qui donne envie d'en savoir plus sur ce journal à Elisa, il faut quand même le signaler, parce que c'est un texte qui en pagination est quand même important.
Ben, sur ce point, j'attends avec plaisir le volume de commentaires
de Guy Jouvet,
parce que c'est un texte extrêmement énigmatique et nous avons besoin de beaucoup d'éclaircissements.
Vous avez jeté un œil, Grégoire Leménager ?
J'ai jeté un œil, et pour le coup, c'est vrai que moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait une préface du traducteur qui nous explique pourquoi il traduit Stern comme ci ou comme ça.
Je ne reproche pas sa préface.
Ça manque un petit peu dans l'appareil critique, je trouve. Ils auraient pu nous expliquer, parce que c'est un texte très déstabilisant.
Ouais.
On ne sait pas très bien quel est le degré de fiction, quel est le degré d'autobiographie, et j'imagine qu'il y a plein d'hypothèses là-dessus.
Ouais.
Et c'est un texte qui est autant l'autre est quand même très 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 drôle. Là, il y a quelque chose de très noir, question de maladie, tout ça. Même s'il y a de l'humour quand même, hein, notamment quand deux savants l'accusent d'avoir une maladie vénérienne et qu'il proteste qu'il est innocent, qu'il il doit se résigner à être traité en pêcheur sur un point où ma conduite avait été celle d'un saint. Non, il y a des choses très drôles quand même, mais effectivement, c'est un texte étrange et très sombre pour le coup. Il y a une vision du libertinage et des rapports charnels qui est beaucoup plus tourmentée.
Jean-Christophe Briançon, tout petit mot.
Non, mais moi je suis assez d'accord. J'ai apprécié de pouvoir le voir sur un autre registre, quoi, parce que j'ai énormément ri avec ce voyage sentimental, entre autres grâce à la langue, encore une fois. Mais
Journalisa, ça rigole moins.
Voilà, on rit moins, mais du coup on voit un auteur qui, comme tous les auteurs drôles, rit par élégance, peut-être.
Un voyage sentimental, donc suivi de ce journal Elisa, de Laurent Stern, chez Tristram, dans une traduction, on l'aura compris, de Guy Jouvet, qui explique son
c'est
projet.
C'est bien de parler des traducteurs parfois,
donc. Ah ben, on en parle souvent, et encore heureux. Sans eux, quel accès aurions-nous aux littératures étrangères ? C'est une telle évidence que je dis, mais c'est quand même une des rares émissions où nous faisons attention à citer évidemment à chaque fois les traductrices et traducteurs. Ce sera le cas pour Will Self tout à l'heure, mais avant cela, pas besoin de traducteur, quoique pour Yves Pagès.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Puisque nous poursuivons cette émission consacrée ce soir à la littérature avec Yves Pagès, donc qui publie un nouveau roman intitulé « Encore heureux » aux éditions L'Olivier, qui se déroule, on va dire, avant, pendant beaucoup, la cavale de Bruno Lescot, délinquant, alors depuis son plus jeune âge, il a commencé très très tôt, qui a commis le mauvais braquage de trop, un policier est mort. Yves Pagès va essayer de reconstituer une vie.
20 ans au bagne ou à perpète, les gaffes collées sur les arêtes, comme des empreintes digitales. Malgré les chaînes et les boulets, vissés dans l'âme et dans les pieds, les assassins et les pédales, elles restent nichées dans ta tête, avec des couleurs de pâquerettes, de petites fleurs qui mêlent les voiles.
Pardon, on est obligé de d'interrompre Jean Ferrat, mais c'est vrai que cette émission a un sommaire chargé. Ce soir, La Cavale, ça s'appelle Encore Heureux, hein, le livre d'Yves Pagès, Grégoire Leménager, pour commencer. C'est un biopic, hein, finalement.
C'est un biopic. C'est un roman au deuxième, au troisième, au dixième degré.
Il n'y a pas de genre indiqué.
Je dois dire que c'était assez troublant de lire ça tout en lisant Stern avec l'autre œil. J'avais un œil sur un livre et un œil sur l'autre. Parce que il y a une certaine filiation. Je trouve que Pagès a aussi une forme de liberté. Il a un rapport très ludique avec toutes les formes narratives. Et là, en l'occurrence, pour nous raconter l'histoire de ce Bruno Lescot, qui est donc tombé dans la délinquance très jeune, puisque dès la classe de grande maternelle, il a griffé Sophie Bergeac et arraché une poignée de cheveux à Nathalie Cerdan.
Ouais, s'en souviennent. Hein.
Voilà, donc il était mal parti dans la vie, ce garçon. C'était en 67, juste avant 68, et naturellement après la culture permissive qui a été développé par mai 68 et tous ses effets qu'on n'en finit pas de déplorer, l'a conduit très loin, puisque il a fini par braquer une BNP avec un pistolet à eau chargé en jus de tomate et un masque de panthère rose sur la tête, quand même. Donc, pour nous raconter cette vie, Pagès s'amuse beaucoup en parodiant toutes sortes de rapports d'experts, de documents judiciaires, de dépositions de témoins, de choses comme ça. Donc, il parodie comme ça, de la même manière que son personnage parodie beaucoup de choses. Lui parodie des discours savants, en fait, pour nous montrer aussi que le pouvoir, il s'exerce sur les individus à travers des discours savants. Tout ça est très cohérent. Je trouve que formellement et thématiquement, il y a une façon de recycler les thèses situationnistes et tout ça littérairement, qui est assez maligne, qui est assez efficace, qui parfois peut sembler un peu lassante, et puis il y a quelque chose qui se débloque. Là, les 60 premières pages, c'est attendu que il a fait ceci, attendu que il a fait cela, c'est-à-dire 60 pages. L'exposé des motifs. Et finalement, ça fonctionne, et puis petit à petit, le personnage, il prend de l'épaisseur à mesure que lui-même disparaît, d'ailleurs, à mesure que lui-même part en cavale. Il y a des passages extrêmement drôles, et il y a une fin que je ne raconterai pas, mais il y a des passages de plus en plus émouvants, je trouve, à la fin, parce que ce type, finalement, à 20 ans, il a gâché sa vie et il est obligé d'en commencer une autre qui n'a plus rien à voir avec la précédente. Enfin, et Pagès a l'intelligence de pas faire un roman à thèse, mais néanmoins de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'assez répressif dans la société contre des types qui, comme ça, sont des enfants de 68 et puis qui vont devenir punk, parce que c'est un punk, ce garçon.
Ben, notamment à travers le groupe.
Le groupe dans lequel il fait le métronome bolchevique en tapant avec une faucille, avec un marteau sur une faucille, ou avec une faucille sur un marteau, je ne sais plus.
Oui, avec un marteau sur une faucille, me semble-t-il. Jean-Christophe Briançon.
C'est un roman malin, effectivement, malin à plein d'égards par sa forme avant tout, puisque ça nous met lecteurs en position de juge finalement, mais de juge assez tendre, puisque effectivement l'auteur ne fait rien d'autre que de nous donner les clés pour essayer de comprendre les raisons de cette trajectoire. Et c'est deux fois malin, puisque en plus, sous couvert d'être au départ au dixième degré par effectivement les attendus de ce jugement qui sont quand même particulièrement drôles, drôle pas pour ce qu'ils exposent en tant que tels, mais pour
la langue employée pour le coup.
Pagès, intègre à l'intérieur, il intègre parfois des formules qui elles-mêmes tournent en dérision totale l'état de droit dans lequel ces attendus sont édictés. Et donc c'est malin, puisque partant de là, on arrive effectivement à quelque chose de très tendre. Très tendre, qui se voit pourtant finalement dès le départ. Moi, j'ai vu après que le livre était dédié au bénéfice du doute. Et finalement, je trouve que c'est assez beau, parce que il ne fait que te faire revivre le doute en croyant à une littérature qui peut-être réhabilitera cet homme-là, si ce n'est sur le plan du droit, puisque de toute façon lui-même admet être fautif. En tout cas, sur le plan moral et humain. Et donc c'est en fin de compte un livre très tendre, et en plus assez on va dire assez ambitieux dans ce qu'il pense de la littérature, puisque finalement ce titre, c'est encore heureux, pour moi c'est encore heureux que la littérature existe finalement, puisqu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui à cet instant-là peut réhabiliter l'humanité de cet homme qui de toute façon s'est laissé aller pour des raisons X ou Y qui vont bien au-delà de sa simple attitude punk, puisque effectivement il y a des instants où on voit à travers lui, moi ça m'a fait penser au Faber de Tristan Garcia ou même parfois à Vernon Subutex de Virgile Despentes, où on a l'impression d'avoir juste une brute épaisse punk qui veut détruire tout sur son passage, et en fin de compte non, c'est tout sauf ça, et il n'y a que la littérature qui pouvait nous le dire, puisque de toute façon le droit l'a mis en prison pour toujours.
Florent Georgesco, sur ce livre d'Yves Pagès, qui s'appelle Encore Heureux, donc.
Oui, en effet, il s'appelle Encore Heureux. Je suis très désarçonné. C'est-à-dire, même gêné un peu. Vous savez, comme quand vous avez un inventeur qui arrive et qui vous présente son invention, et puis le truc ne marche pas. La machine s'effondre. J'ai eu ce sentiment très souvent dans ce livre. En fait, c'est un dispositif très bien pensé, donc pour moi, d'une part, aucun élément ne fonctionne réellement, et donc de plus, l'objet ne mérite pas tant. L'idée du dossier, l'idée de multiplier les formes pour cerner un personnage absent qu'on ne voit jamais quasiment, enfin en tout cas pour les trois quarts du livre, en face à face en quelque sorte, est une très belle idée. Mais encore faut-il qu'il y ait une sorte de, dans cette absence de magnétisme, pour que le dispositif ait un sens, pour qu'on comprenne en quoi ça consiste à tourner autour. On tourne autour d'une planète, on ne tourne pas autour d'une boîte de conserve. Je veux dire, c'est moins intéressant. En l'occurrence, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce personnage, qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette histoire rebattue. Et de plus, encore une fois, chaque dispositif, pour moi, je n'ai pas trouvé drôle les attendus que. J'ai trouvé que c'était typiquement la mauvaise idée. Enfin, on dit généralement la fausse bonne idée, mais non, la mauvaise idée. Je ne trouve pas qu'il soit efficacement parodique. Bien sûr qu'il veut l'être, mais ce n'est pas très drôle. Dire que la langue administrative est une langue balourde avec un certain vocabulaire, oui. Nous le savions. Mais il ne fait que le montrer. Il ne joue pas avec. Il n'y a pas je n'ai pas ri. Donc, pour résumer, on a des éléments qui ne fonctionnent pas et je ne vois pas l'intérêt de les réunir, en plus. Donc ça fait deux choses qui ont rendu cette lecture, pour moi, pas très heureuse, justement.
Bon, je suis un peu désolé d'être pas mal d'accord avec vous, non pas pour le fait d'être d'accord avec vous, mais parce que Yves Pagès, c'est quelqu'un vraiment que je tiens en belle estime, parce qu'il produit des livres extrêmement différents les uns des autres, parce que justement, il a des idées de dispositifs, de procédés, de jeux.
Au sens du risque, voilà. Mais le risque parfois...
Et il m'a semblé moi aussi que le risque n'était pas absolument payant cette fois-ci, sur les attendus que... J'ai pas ressenti, j'aurais aimé Grégoire Leménager être comme vous et me laisser prendre, et j'ai surtout vu un procédé, un dispositif, et heureusement qu'il y a une... Pour le coup, moi j'ai ressenti une belle et forte émotion sur les dernières pages du livre, mais vraiment...
Oui, le dernier dispositif est le meilleur, et c'est celui qui est le moins en
voilà,
dispositif d'ailleurs.
Absolument.
C'est loin.
C'est quand même loin. Bon, en même temps, on finit par ça, donc c'est mieux de finir par le meilleur que de commencer. Bref.
Oui. Nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si beaucoup de lecteurs peuvent...
Non, mais effectivement, il y a
Grégoire Leménager.
Il y a des longueurs.
Ça va avec l'idée.
Il se trouve un peu emporté par son procédé, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que réellement, il ne parodie pas que de la langue administrative.
J'ai pris cet exemple, pardon.
Oui, mais
ce qu'il rate encore plus, c'est les journaux. Par exemple, il y a des coupures de presse.
Ouais.
C'est de la parodie. C'est de la parodie.
Les études de cas sont mieux.
Oui.
Il parodie toutes sortes de façons de parler, de façons de s'exprimer, de discours qu'on peut tenir sur un individu. Et puis au milieu, dans ce faisceau de discours, qui sont tous assez approximatifs, qui sont tous un peu caricaturaux, petit à petit, je trouve que il y a un personnage qui prend de l'épaisseur, qui prend de la dimension, et qui finalement n'est réductible ni aux explications psychologiques, ni sociologiques, ni psychiatriques, ni qu'on peut en donner. Bon, c'est.
Ouais, c'est là où nos lectures divergent, parce que je vois évidemment très bien ce que Pagès veut faire, sauf que j'ai l'impression, Florent Jorisco, pour moi, il n'y arrive pas vraiment, et ce Bruno Lescot reste très évanescent et une construction mentale, mais qui a du mal à s'incarner.
On voit très bien, je suis tout à fait d'accord pour interpréter le dispositif comme Grégoire vient de le faire. C'est ça, on montre à quel point un être n'est pas réductible à tout ce qu'on peut en dire. Mais voilà, l'objet se défait à mesure pour moi, donc
ça n'a plus le même intérêt.
Je suis d'accord que le dispositif peut s'apparenter à un exercice de style plus qu'autre chose, mais... moi personnellement, c'est très subjectif, mais j'ai pas été dérangé par l'omniprésence de ce dispositif qui, il est vrai,
est quand même très voyant, ça clignote beaucoup
et très présent. Mais pour autant, j'ai réussi à me laisser embarquer, et je trouve que la façon dont il dissémine petit à petit et dont il nous permet petit à petit d'arriver dans la vie de cet homme avec des
malin, il l'est assurément, c'est un mot que vous avez employé, mais
bien
je trouve
fait.
Que Yves Pagès est souvent bien plus que malin. Et là, j'ai l'impression qu'il est surtout malin. Ce qui,
il est surtout
ce qui
malin, c'est vrai.
Une critique négative assez
positive.
C'est
vrai, mais je ne pense pas que ce soit un livre qui ait une visée plus importante que ça. C'est un livre qui fait passer un moment, et un moment assez tendre, et qui n'est pas désagréable à lire.
Mais plus ambitieux que ça, je pense.
Grégoire Leménager.
Il veut vraiment témoigner de l'évolution d'une société sur 20 ans, avec ce que 68 a pu incarner, et ce que ça a pu donner après, Et c'est sa vie qui nous raconte aussi, Pagès, parce que je crois que le personnage est né le 24 septembre 62. Je crois que Pagès, j'ai regardé, il est né le 24 septembre 63. Donc il doit y avoir quand même quelque chose.
C'est vieilli.
Et on sent et toute la tendresse qu'il peut y avoir chez Pagès pour le punk, elle s'incarne dans le livre aussi. Et ça aussi, ça lui donne de la chair. Mais je trouve moi que justement les procédés se voient beaucoup. Énormément, il les assume complètement.
Oui, bien sûr.
Et on se dit que ça va être fastidieux sur 350 pages. Et je trouve pas que ça se défasse au fur et à mesure, justement. J'ai plutôt l'impression que à mesure que ça avançait, ça finissait par prendre.
Ouais, voilà. Okay,
c'est les 40 dernières pages qui prennent. Je crois pas que ce soit le fruit du dispositif, mais d'une sortie du dispositif, peut-être. En quelque sorte.
Bon, comme nous ne sommes pas d'accord, le mieux c'est que vous alliez voir par vous-même, vous procurer. Encore heureux, Dif Pagès, publié aux éditions de l'Olivier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Hasard de la programmation, le troisième livre au sommaire de cette dispute littérature est également publié à l'Olivier. C'était Requin de Will Self, traduit de l'anglais par Bernard Höffner. Et là, c'est à nouveau l'occasion de saluer le travail de ce très grand traducteur disparu accidentellement au printemps dernier. On a ouvert par la disparition de Paul Tchaïkovski-Laurence. On salue ici la mémoire de Bernard Höffner qui était vraiment un très grand traducteur.
Voilà bien un tour de force de la traduction d'ailleurs. Comme beaucoup des livres qu'il a traduits. Oui,
en effet, on va en parler. C'est le deuxième volet d'une trilogie débutée avec Parapluie pour Will Self. On retrouve un de ses personnages récurrents, comme l'on dit. C'est le docteur Zach Büssner, psychiatre. On est là au début de l'année 70. Il expérimente dans sa clinique londonienne des traitements nouveaux. Et à l'époque, les médecins expérimentent avec les patients. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à prendre avec eux donc une bonne dose de LSD. De la mer, ça fait toujours peur cette musique de John Williams. Mais Les Dents de la Mer,
on est repentillés sur nos chaises.
Oui, on a un petit peu peur. Les Dents de la Mer, ce sera pour plus tard par rapport au gros trip de 70, mais le texte de Will Self, oui, difficulté de traduction, flux, on va dire ça, parce que vraiment, il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre. Il y a tout de même un peu plus de 420 pages. La temporalité ne brille pas absolument par sa clarté, notamment. Enfin, c'est l'une des choses. Jean-Christophe Briançon, vous prendrez bien une tranche de Requin ou un aileron ?
Ah, moi, je reprendrai autant qu'il en sortira.
C'est vrai ?
Parce que c'est...
Vous attendez Faune, Téléphone, ce sera le troisième.
J'attends Faune, effectivement, avec grande impatience. Je ne sais pas comment ils vont faire, maintenant que ce grand traducteur est disparu. Effectivement, je pense que ça va être compliqué, mais... ils vont y arriver, certainement. En tout cas, j'en reprendrai. Effectivement, je lirai le troisième tome avec beaucoup d'attention, même si pour ceux qui connaissent pas bien Will Self, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux de commencer par cette trilogie. Hein, on va se le dire.
Parce que ça comme ça, c'est pas mal.
C'est quand même très très compliqué. C'est un auteur qui a fait.
Commencer par quoi ? Sondage Express ?
Peut-être. Moi, je dirais Dorian. Dorian ou No Smoking, peut-être.
Bon, vous avez une idée que vous allez aménager ? Par quoi on commence pour Will Self ?
Moi, je crois que j'avais lu Mon idée du plaisir dans le temps que j'avais trouvé ça lisible.
Bon, on voit ce qui va suivre. Florent Georgesco.
Moi, j'avais un relativement bon souvenir d'un livre dont le titre m'échappe.
Ah oui, vous essayez de retrouver.
Voilà, la vie. Dave aussi, qui était très bon. Voilà, exactement.
Le livre de Dave.
Que je trouve, c'est le moment de la chute pour moi. Mais il était à moitié génial, ce livre-là. Will Self, à l'époque, était à moitié génial. C'est formidable.
Requin.
Il était entièrement génial et il l'est toujours. Toujours avec ce livre qui est à la fois d'une grande froideur et qui c'est vraiment un livre expérimental qui nous livre un flot de paroles ininterrompu où on comprend La plupart du temps, pas grand-chose si on s'attache à l'individualité des mots et des pages. Faut vraiment aller jusqu'au bout pour le lire en entier. Et s'en dégage à la fin quelque chose de, là aussi, comme chez Yves Pagès, mais d'une manière très différente, quelque chose de très tendre, puisque sous couvert de ce récit de fou enfermé dans cet hôpital psychiatrique qui n'en est pas un, finalement c'est une espèce de communauté où on gère les fous par la drogue, quoi, voilà, l'antipsychiatrie des années 70, tout ça, bon, et on se retrouve dans la tête de ces gens-là, mais dans la tête et dans leur folie, mais c'est une folie qui nous permet d'entrevoir à peu près tous les drames du siècle et tous les drames des individualités de ces gens. Puisque il y a des passages qui nous font bien dire, qui nous montrent que, de toute façon, que l'histoire soit là ou non, la douleur est intrinsèque et la douleur de ces gens qu'on suit est de toute façon ancrée au plus profond de leurs os, de leur âme. Mmh. Et ça, Will Self parvient quand même à le montrer, à le démontrer à travers un flot de paroles qu'on a tous peut-être dans nos têtes, mais qui là est retranscrit de manière particulièrement brillante. C'est un exercice.
Si vous souhaitez qu'on ait tout ça dans la tête, je suis pas sûr, mais bon.
Peut-être pas, mais c'est peut-être pas moi.
Si vous pensez que tout le monde l'a dans la tête, je suis légèrement inquiet.
Enfin, on ne prend pas du LSD.
On en parlera après l'émission, Jean-Christophe. Il faut qu'on parle tous les deux.
Mais en tout cas, là on parlait, avec POL d'éditeurs qui ou d'auteurs qui en tout cas s'attachent à la forme, puisque POL était un éditeur qui attachait beaucoup d'importance à ça. Là, alors on estime que c'est raté ou non. En tout cas, on a un auteur qui tente une forme et qui nous délivre quelque chose de, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas de différent.
Florent Georgesco. Ah. Avant, il était à moitié génial. C'est-à-dire que maintenant, donc, la proportion, c'est quoi ?
Le problème, c'est zéro. Je vais être en plus extrêmement répétitif. J'en suis désolé pour les auditeurs fidèles. Puis je me souviens qu'on avait, parlé déjà de parapluie ici même.
Et vous serez là pour téléphone.
Et
je m'en assurerai personnellement.
Vous êtes d'une cruauté.
J'espère.
Écoutez, le problème, c'est que je vais dire exactement les mêmes choses, puisqu'on a un problème de conception même de la littérature dans cette trilogie. Justement, je ne crois pas, contrairement à Jean-Christophe, que ça ait quoi que ce soit à voir avec ce qu'on a dans nos têtes, et pas parce que je serais plus sain d'esprit que vous. Mais
oui, c'est très discutable.
Ce qui est très discutable. mais parce que pour moi, c'est totalement fake.
Fabriqué.
Artificiel. C'est l'erreur principale de ce type de conception du flux mental. C'est que moi, je veux bien qu'on fasse toutes les expériences, qu'on se rapproche autant que possible en cassant tous les codes de ce qui se passe dans une tête. C'est une entreprise absolument passionnante. Mmh. Mais c'est pas ça qui se passe dans une tête. C'est totalement, ce n'est que de la forme, justement. C'est la forme qu'il donne à ce qu'il imagine. Enfin, c'est un message sur ce que serait une conception possible de ce qu'on a dans nos têtes. C'est quelque chose qui est de l'ordre. Alors là, on est dans un discours sur le discours à l'infini. On est très loin de tout. Et pour moi, c'est un. En fait, il ne comprend pas une chose, c'est que à rompre totalement avec la temporalité, avec l'unité. Parce qu'en fait, le cerveau est fabriqué pour faire de l'unité. Les recherches en neurosciences nous le disent. Un chercheur disait récemment, le cerveau est à la recherche d'équilibre. Il repère des continuités, notamment. Je crois que c'est une conception totalement fausse de ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Je pense que, en plus, il n'y a pas de dialectique. La bizarrerie, l'étrangeté, la faille, c'est la faille dans quelque chose. Là, on a de la faille sur de la faille. On est en fait dans une monotonie parce qu'il n'y a pas cette dialectique. Il n'y a pas la différence. La subversion consiste à prendre quelque chose avant de le subvertir. Là, il ne prend rien, il n'a rien dans sa main et il le subvertit quand même. Le résultat est donc, pour moi, l'ennui le plus considérable. Donc moi, au bout de ce livre, ce que j'éprouve, c'est un soulagement merveilleux d'en avoir fini avec ce cauchemar.
Grégoire Le Ménager, Will Self, requin.
Oui, ben moi je vais sortir mon joker aussi, hein, parce que j'avais un œil dans chacun des deux autres et j'avais pas de troisième œil pour déchiffrer ça. Non, je suis désolé, je sais que Will Self est considéré comme quelqu'un de très important. Ce livre-là, je n'arrive pas à je n'arrive pas à comprendre ce qui enfin, j'arrive à comprendre ce qu'il veut faire, mais j'étouffe. Enfin,
mais c'est ça qu'il veut faire.
Oui, c'est ça qu'il veut faire, mais...
Oui, mais ça n'a aucun intérêt.
Mais je trouve pas que ce soit...
Elle est très bonne, cette petite boucle, là. On va l'isoler.
Je trouve pas que ce soit si intéressant que ça, effectivement. Et heureusement que la quatrième de couverture nous prévient que ça se passe en 1970. D'ailleurs, la quatrième de couverture est obligée de nous dire ça, parce que sinon, ça serait vraiment impossible.
La quatrième de couverture dit beaucoup plus que le livre.
Mais oui, exactement. Le micro sera encore mieux.
Elle est obligée de nous dire que ça se passe dans un asile psychiatrique et qu'on va essayer du LSD et que beaucoup de gens vont parler en même temps.
Parce que moi, je pense que la quatrième de couverture, c'est le résumé des 400 pages du livre, en fait. Mais le grand résumé concis, en fait. Parce que je vois pas... Il ne s'agit pas de voler à votre secours, Grégoire, mais j'ai la même incapacité à lire ça. Non,
mais je regrette. En fait, je me suis senti très bête. Mais d'autant que...
Bon, pourquoi ?
Non, c'est lui, vraiment.
Mais parce qu'effectivement, c'est merveilleusement traduit. Enfin, Höpfner était un virtuose.
Franchement, je pense que c'est lui qui a le plus de plaisir à lire Wilsef en le traduisant, sans doute. Parce
oui,
que
sûrement.
Vous disiez tout à l'heure, Yves Paget, c'est malin. Moi, je trouve que Wilsef fait le malin. Et c'est évidemment tout à fait différent. Mais Jean-Christophe Briançon, vous allez le défendre à nouveau.
Il fait pas le malin, puisque c'est je suis tout à fait...
Il fait le malin, quand même, ça, vous pouvez le concéder.
Oui, mais les génies ont toujours le droit de faire les malins, c'est pas grave, puisque de toute façon, ils le font mieux que tout le monde. Donc voilà, là, il fait le malin mieux que tout le monde. Et effectivement, il fait le malin, mais avec un brio et une facilité qui est quand même assez déconcertante. Et vous disiez, Florent, qu'il n'y a pas de subversion, qui prend quelque chose en l'état pour ne faire en quelque sorte rien d'autre que de le montrer. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord à la fois, puisque de toute façon, il ne peut rien faire d'autre que de prendre ses cerveaux qui, de toute façon, n'ont plus la capacité, effectivement, de faire preuve de continuité, tels qu'ils sont, puisque son propos, c'est de dire que, de toute façon, de tout temps, l'histoire a détruit ses cerveaux. Que ce soit, alors là, en l'occurrence, c'est par Hiroshima, c'est par la Seconde Guerre mondiale, et l'histoire a cassé ses cerveaux de telle manière...
Non, l'histoire n'a pas cassé les cerveaux de cette manière. Quand on prend du LSD tous les jours, oui, on a le cerveau cassé, mais enfin...
Mais on n'en prend pas pour aucune raison.
Le problème, c'est qu'en plus, il a cette ambition historique ahurissante. Enfin, il nous explique l'histoire
du XXe siècle historique. C'est une option de l'impact de l'histoire, mais ça pourrait être cette histoire-là comme n'importe quelle autre. C'est pas il peut mettre son récit au 18e.
Tout pourrait être ceci plutôt que telle autre chose.
Mais c'est un propos sur l'histoire, c'est pas un propos sur un fait historique précis. Et l'histoire a fait ça à ces gens-là. C'est indéniable, ou en tout cas lui a fait ça à lui, manifestement.
À lui self.
À lui, Wilsef, oui.
Non, ça, je pense que Wilsef a compris comment exister en tant qu'écrivain le plus expérimental de notre époque.
Il y a quelque chose qui relève un peu de la posture, quand même.
Oui, je pense.
D'une forme de fabrication. Là, on parlait des procédés de fabrication chez Paget. Paget, les procédés de fabrication, il s'en cache pas, il les exhibe. Enfin, et lui, il y a quelque chose de faussement naturaliste dans cette espèce de monologue intérieur poussé à outrance, de logorée, avec différents locuteurs, ça se cogne et tout ça. Et en fait, il fait quoi? Il essaye de montrer qu'il peut faire comme Joyce, mais Joyce l'a déjà fait, donc il a atteint une espèce de point limite.
Ça date terriblement.
Quelque chose d'un peu démonstratif.
Ça date comme l'antipsychiatrie, en fait. C'est aussi archaïque que l'antipsychiatrie dont il y a question.
C'est une sensation que j'ai parfois devant des spectacles de danse, qui ne me parlent pas du tout, de danse contemporaine, j'entends, où je me demande pourquoi faire ce geste-là plutôt qu'un autre. Et là, je me demandais un peu à chaque phrase, pourquoi cette phrase-là, pourquoi ces mots-là plutôt que d'autres, parce que ça ne me dit rien, en fait.
Tout est évidemment concrètement interchangeable dans le livre. On est d'accord.
C'est le projet. C'est pour ça que ce livre est grand.
Ça suffit.
Entre
autres.
C'est ça.
Mais entre autres. Mais bon, encore, vu qu'on en dit beaucoup de mal, je pense qu'il faut en tout cas encourager les auditeurs, si ce n'est à lire celui-là, les autres comme on l'a dit.
Allez en librairie, ouvrez la première page et vous verrez bien si vous plongez. Ouais, mais méfiez-vous, il y a un requin.
Pardon, il y a d'autres livres en librairie. Restez dans la librairie, mais
oui, il y a mieux à faire. Et vous en d'autres. Non, mais là, très, très sérieusement, alors il faut un peu de temps et on peut rester. Il y a des librairies, on peut s'installer confortablement. On peut faire l'expérience d'en lire 20, 30. Si on succombe pas au bout de combien de pages, on peut se dire que c'est pas pour
soi. Moi, je pense que c'est un livre qui se lit en entier ou qui se lit pas, parce que la seule chose qu'on peut en tirer, c'est ce qui se retirera de la totalité. Mais si on lit 20 pages, je pense que justement, on s'ennuie et on passe à côté parce qu'on a l'impression de lire quelque chose qui ne veut rien dire.
Bon, il faut persévérer.
Il faut.
Requin de Wilsef à l'Olivier, traduction Bernard Höpfner. Et après ce retour marquant de Boris Pinault qu'on n'a pas entendu, nos éditeurs vous ont écouté mais ils ne nous ont pas commenté ce soir. Le jeu de la dispute, c'est Grégoire Di Fiore et qu'on entend lui tous les soirs pour nous rappeler d'une part la question du jeu d'hier au soir, nous donner sa réponse dans un premier temps.
Comment était baptisée la Villa Savoie dessinée par Le Corbusier et située à Poissy? Et la réponse était les Arcs Clairs.
Et d'autre part, nous dire comment gagner ce soir des invitations pour le spectacle La Vase, mis en scène par Marguerite Borda et Pierre Meunier. Des places à gagner pour la représentation de lundi soir, 8 janvier, à 20h30 au Théâtre des Abbesses à Paris.
De quelle poétesse autiste se sont inspirés les deux artistes dans leur précédent spectacle?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner bien sûr aussi au podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Thierry Chaise et Philippe Azoury. À notre affiche, Le Lion est mort ce soir de Nobuhiro Suwa, Cœur pur de Roberto Paolis et Taste of Cement de Ziad Kaltoum.